Je n'ai jamais osé lui acheter un journal. Je ne suis pas sûre qu'il porte toujours quelques numéros sur lui lorsqu'à l'extérieur du jardin du Luxembourg, il se glisse lentement, en avant et en arrière, tout le soir durant. Il tourne le dos à la grille et sa main frôle le socle de pierre sur lequel se dressent les barreaux. Il se fait si mince que tous les jours beaucoup de gens passent qui ne l'ont jamais vu. Sans doute a-t-il encore un reste de voix qui rappelle son existence, mais ce n'est pas autre chose qu'un bruit dans une lampe, ou dans le poêle, ou l'égouttement d'une grotte à intervalles réguliers. Et le monde est ainsi fait qu'il y a des hommes qui, toute leur vie, passent justement pendant la pause durant laquelle, plus silencieux que tout ce qui se meut, ils s'avancent comme l'aiguille d'une montre, comme l'ombre d'une aiguille, comme le temps. Combien j'avais tort de ne le regarder qu'à contre-cœur. J'ai honte d'écrire que souvent, en m'approchant de lui, je prenais le pas des autres, comme si j'ignorais qu'il fût là. Alors j'entendais dire en lui la presse, et aussitôt après encore une fois, et une troisième fois, à intervalles rapides. Et à côté de moi, les gens se retournaient et cherchaient la voix. Moi seule, je me hâtais, plus que tous les autres, comme si rien ne m'avait frappé, comme si j'étais extrêmement absorbée. Et je l'étais, en effet. J'étais occupée à me le représenter. J'entreprenais de l'imaginer, et cet effort me couvrait de sueur. Car je devais le créer comme on crée un mort, à l'appui duquel il n'y a plus de preuves et dont il n'est plus possible de trouver les composantes. Un mort qu'il faut accomplir complètement au-dedans de soi. Je sais à présent que je trouvais un peu de secours à penser aux nombreux Christs en ivoire strié qui traînent chez tous les antiquaires. La pensée de je ne sais quelle Pietà surgit et s'évanouit. Tout cela sans doute seulement pour évoquer une certaine inclinaison de son long visage et la désolation d'une barbe qui repoussait peu à peu à l'ombre des joues, et cette cécité définitivement douloureuse de son expression fermée qui était dirigée de biais vers en haut. Mais il y avait en outre tant de choses qui lui appartenaient, car je compris dès alors que rien de lui n'était accessoire, ni la manière dont la veste et le manteau, bâillant en arrière, laissaient partout voir le col, ce col bas, qui se dressait en un grand arc autour de la nuque tendue et creusée, sans le toucher, ni la cravate d'un noir verdâtre, lâchement noué autour, ni surtout le chapeau de feutre à fond raide qu'il portait comme tous les aveugles portent leur chapeau, sans rapport avec les traits du visage, sans la possibilité de former, avec cet objet supplémentaire et soi-même, une nouvelle unité extérieure. Et ce n'est rien de plus qu'un quelconque objet étranger. Dans mon obstination lâche à ne pas le regarder, je finis par en arriver à ce point que l'image de cet homme se condensa en moi, sans raison, avec une force douloureuse, en une misère si dure que, harcelé par elle, je décidai d'intimider et de supprimer la précision croissante de ma représentation par la réalité extérieure. C'était le soir. Je décidai de passer aussitôt près de lui en le regardant attentivement. Il faut à présent que vous sachiez. On approchait du printemps. Le vent du jour était tombé. Les rues étaient longues et satisfaites. À leurs issues, les maisons luisaient, nouvelles, comme des brisures récentes d'un métal blanc. Mais c'était un métal qui vous surprenait par sa légèreté. Dans les rues larges, au courant ininterrompu, beaucoup de gens passaient les uns entre les autres, presque sans crainte des voitures qui étaient rares. Ce devait être un dimanche. Les terrasses des tours de Saint-Sulpice se montraient, gaies et d'une hauteur inattendue, dans l'air calme, et par les rues étroites, presque romaines, on regardait involontairement dans la saison. Au jardin, et devant lui, il y avait tant de mouvements d'hommes que je ne le vis pas aussitôt, ou ne le reconnus-je pas tout de suite à travers la foule. Je sus dès l'abord que la représentation que j'avais de lui était sans valeur. La résignation de sa misère, qui n'était limitée par aucune précaution ni aucune teinte, dépassait mes moyens. Je n'avais compris ni l'angle d'inclinaison de son attitude, ni l'effroi dont l'intérieur de ses paupières semblait l'emplir complètement. Je n'avais jamais pensé à sa bouche, qui était rétrécie comme l'ouverture d'un conduit de gouttière. Peut-être avait-il des souvenirs, mais à présent, plus rien ne s'ajoutait à son âme que tous les jours la sensation amorphe du rebord de pierre derrière lui, auquel sa main s'usait peu à peu. J'étais restée debout, et tandis que je voyais tout cela, presque simultanément, je sentais qu'il avait un autre chapeau et une cravate qui était sans doute une cravate de dimanche. C'était un biais en damier jaune et violet, et quant au chapeau, c'était un chapeau de paille bon marché, avec un ruban vert. Les couleurs, bien entendu, importent peu, et il est même mesquin de ma part de m'en souvenir. Je veux dire seulement qu'elles étaient sur lui comme le duvet le plus tendre au ventre d'un oiseau. Lui-même n'y prenait point plaisir, et qui donc de tous ces gens, je me retournai, aurait pu supposer qu'il se fût paré pour eux. Mon Dieu, me rappelai-je avec une subite véhémence, c'est donc ainsi que tu es. Il y a des preuves de ton existence. Je les ai toutes oubliées, et je n'en ai jamais demandé aucune, car quelle formidable obligation serait contenue dans cette certitude. Et cependant, on me la démontre à présent. Voilà donc ton goût, voilà ton bon plaisir. Puissions-nous apprendre à supporter tout et à ne point juger? Quelles sont les choses que tu condamnes? Quelles, celles que tu agrées? Toi seul le sais. Lorsque l'hiver sera de nouveau et que j'aurai besoin d'un manteau neuf, accorde-moi de le porter ainsi, durant qu'il sera neuf. Ce n'est pas que je veuille me distinguer d'eux lorsque je me promène dans des vêtements meilleurs et qui m'ont appartenu depuis le commencement, et lorsque je tiens à habiter quelque part. Non, simplement, je n'en suis pas arrivée là. Je n'ai pas le cœur de vivre leur vie. Si mon bras dépérissait, je crois que je le cacherais. Mais elle, je ne sais autrement qui elle était, elle apparaissait tous les jours devant les terrasses des cafés. Et bien que ce fût très difficile pour elle de retirer son manteau et de se dégager de ses vêtements et de ses sous-vêtements confus, elle n'épargnait pas cette peine et elle se débarrassait et se dévêtait si longuement que l'on pouvait à peine encore prendre patience. Et alors elle était debout, devant vous, modeste, avec son moignon sec et résorbé, et l'on pouvait voir qu'il était rare. Non, ce n'est pas que je veuille me distinguer d'eux, mais je m'estimerais trop si je voulais être semblable à eux. Je ne le suis pas. Je n'aurai ni leur force, ni leur proportion. Je me nourris, et de repas en repas, j'existe donc sans qu'aucun miracle intervienne, tandis qu'eux subsistent presque comme des éternels. Ils sont debout dans leurs angles, comme tous les jours, même en novembre, et l'hiver ne les fait pas crier. Le brouillard vient et les fait confus et incertains. Ils sont malgré cela. J'étais partie en voyage, j'étais tombée malade, beaucoup de choses s'étaient déroulées en moi, mais eux ne sont pas morts. Je ne sais même pas comment il est possible que les collégiens se lèvent dans les chambres grises à l'odeur de froid. Qui les encourage, ces petits squelettes pressés, pour qu'ils se précipitent dehors dans la ville adulte, dans cette fin trouble de la nuit, dans ce jour de classe éternelle, toujours encore petit, toujours rempli de pressentiments, toujours en retard. Je n'ai aucune idée de la somme de secours qui se dépense continuellement. Cette ville est pleine d'hommes qui glissent lentement parmi eux. La plupart commencent par résister, mais ensuite, il y a aussi ces filles, presque vieilles, décolorées, et qui ne cessent de s'abandonner sans lutter, qui au plus profond d'elles n'ont jamais servi, qui n'ont jamais été aimées. Peut-être penses-tu, mon Dieu, que je dois renoncer à tout et les aimer? Ou sinon, pourquoi m'en coûte-t-il tant de ne pas les suivre lorsqu'elles me dépassent? Pourquoi inventai-je tout à coup les mots les plus doux, les plus nocturnes? Et pourquoi ma voix demeure-t-elle tendrement entre ma gorge et mon cœur? Et pourquoi me représentais-je comment, avec d'infinies précautions, je les tiendrais dans mon haleine, ces poupées avec lesquelles la vie a joué, en ouvrant leurs bras de printemps en printemps, pour rien, jusqu'à ce que les joints des épaules se soient relâchés. Elles ne sont jamais tombées d'une espérance très haute, elles ne se sont donc pas brisées, mais elles sont abîmées, et la vie déjà n'en veut plus. Seuls les chats perdus viennent le soir chez elles, dans leur chambre, et les griffent en secret, et se couchent sur elles. Quelquefois je suis l'une d'entre elles à travers deux rues, elles longent les maisons, des hommes viennent toujours qui les recouvrent, elles disparaissent derrière eux, annulées. Et cependant je sais que si un seul essayait de les aimer, elle serait lourde contre lui comme quelqu'un qui s'est trop éloigné et qui cesse de marcher. Je crois que Jésus seul les supporterait, qui a encore la résurrection dans tous ses membres. Mais elle lui importe peu, seuls ceux qui aiment le séduisent, et non pas celles qui attendent avec de petites dispositions à être aimées comme une lampe froide.